vivre ce culte à l'église Sonra. Depuis que j'entends parler de l'église Sonra, je suis tellement heureux de pouvoir rencontrer. Alors bien sûr, je connais plusieurs d'entre vous ici et c'est une joie aussi de revoir de nombreuses personnes, mais de vivre un culte avec vous. Juste un petit point technique, voilà, c'est bon, ben c'est réglé. Merci, c'est super, c'est hyper efficace. Un petit point peut-être sur notre union d'église. Donc la CSR, vous savez, la commission de service et de référence, on va dire un petit peu l'organe qui réfléchit à voilà comment faire vivre toujours mieux les églises, mettre en réseau les églises dans notre union d'église à l'échelle de la France, est réunie à Lyon. Donc c'est une des raisons de ma venue ce matin. On a pu se réunir et donc c'est l'occasion peut-être de donner quelques nouvelles fraîches. Alors il y avait un premier point que j'avais envisagé d'aborder, mais c'est bien parce que ça a déjà été fait. C'est le congrès qui est bientôt, donc du 6 au 8 mai, ça a été dit. Et merci Nasser, tu l'as bien précisé, ça n'est pas réservé qu'aux responsables. Donc il y a une première bonne nouvelle, c'est qu'il reste encore des places. Donc si jamais vous ne l'avez pas encore fait, inscrivez-vous au congrès, venez vivre un congrès, peut-être pour la première fois, se découvrir un petit peu ce qui se passe à l'échelle de l'Union, découvrir d'autres personnes de la famille d'Église. Voilà, vous pourrez être encouragé. Et puis, on aura Matthieu Sanders, notre orateur, qui nous parlera sur le livre de Jérémie. Une deuxième, peut-être, c'est pas une annonce, hein, c'est vraiment vie de l'Union. Pour ceux qui se disent, mais si je pouvais en apprendre plus, si je pouvais aller plus loin dans le disciple que j'ai envie de devenir, eh bien, il y a une formation, le REF, responsable en formation. Si dans l'église, vous êtes peut-être interpellé par ça ou vous posez des questions, allez voir vos responsables pour qu'ils puissent vous en dire plus, vous indiquer la marche à suivre pour l'inscription. Et là encore, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il reste des places pour cette année. Le REF, c'est une inscription, un engagement sur 2 années avec une semaine l'été et puis 2 week-ends dans l'année. Donc, c'est vraiment quelque chose de très encourageant. C'est dans cette formation que j'ai eu l'occasion de rencontrer JL, Colin, voilà, différentes personnes et c'était une joie de pouvoir vivre cela ensemble. L'union, c'est aussi des défis et peut-être c'est important que vous pensiez régulièrement dans vos prières à voilà, l'église à l'échelle nationale, des défis de beaucoup d'églises finalement qui sont en difficulté, qui stagnent, qui ont du mal à avancer, à prendre leur rôle parfois de ce pourquoi l'Église existe. C'est pas toujours évident. Donc c'est un vrai sujet de prière. Et un de nos constats, c'est que, bien sûr, il y a beaucoup de travail pour pouvoir encourager les Églises, œuvrer auprès des Églises. Mais ça nécessite du temps et des personnes. Et au stade où on en est actuellement, on ressent ce besoin de devoir embaucher d'autres personnes que l'entente, en fait, évangélique, hein, donc l'organe qui représente notre union d'église, puisse embaucher des personnes pour pouvoir œuvrer auprès des églises. Ça fait plusieurs années qu'on recherche différentes personnes, au vu de d'autres qui vont partir. Vous savez peut-être que Eric Vechter, qui œuvrait beaucoup pour les églises, est parti au Canada. Pierre Barito va partir à la retraite. Et donc, du coup, il faut que de nouvelles personnes puissent arriver pour assurer tout ce qui est organisationnel et, on va dire, l'exécutif. Et donc, du coup, on prie depuis de nombreuses années pour cela. On a des premiers éléments de réponse qui sont de reconnaissance. On a plusieurs personnes qui, à temps plein ou à temps partiel, vont rejoindre l'Union. Ça a été déjà communiqué, peut-être que certains d'entre vous le savent. Une personne pour les ressources humaines, Jonathan Antoine. Et puis une personne pour l'organisation des différents événements, le congrès, le REF, la retraite des temps pleins, avec Olivier Bertrand. Et puis quelqu'un qui va œuvrer particulièrement aussi pour les églises et la réflexion pour les églises avec Raphaël Charrier, qui va rejoindre un petit peu l'équipe des permanents pour l'entente. Mais cela nécessite aussi met devant nous des défis financiers. Alors là aussi, je crois qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que c'est important que les églises prennent conscience de ces défis, chaque église, pour pouvoir permettre que l'union continue de grandir, d'avancer et finalement de réfléchir non pas uniquement à l'échelle locale, mais à l'échelle d'un réseau, de comment est-ce qu'en tant qu'église aussi, on peut être utile pour la croissance de toutes les églises et voir l'image du royaume de Dieu à grande échelle. Et peut-être, j'introduis un peu le message de ce matin, et j'ai appelé à la prière pour cela tout à l'heure, mais parfois on a tendance à sous-estimer la puissance de la prière. Et vous avez certainement entendu des histoires assez incroyables de personnages, de héros de la foi qui, suite à des prières, ont eu des bénédictions incroyables. Vous connaissez certainement ces histoires de George Muller, par exemple, qui s'occupait d'un orphelinat, et puis un jour, il avait tous ses orphelins à table, et rien à manger sur la table, absolument rien. Et avec foi, il s'est mis à prier, « Seigneur, fais quelque chose !» Et puis, il s'avère que le laitier qui passait à ce moment-là devant l'orphelinat a eu un petit incident et la roue de son chariot s'est cassée. Et il était embêté, il pouvait plus livrer son lait, il était bloqué. Il a dit « Mais qu'est-ce que je vais faire de tout ce lait ?» Et puis il était juste devant la porte de l'orphelinat. Et puis il toque à la porte, à ce moment-là, George Muller qui était en train de prier va ouvrir et dit « Écoutez, le laitier qui dit à George Muller, je suis embêté, j'ai plusieurs bidons de lait, est-ce que ça vous intéresserait ?» Et puis d'autres histoires comme ça que raconte George Muller. Et puis bien d'autres histoires peut-être qu'on connaît, incroyables. Et où parfois je me dis « Mais jusqu'où est-ce que je néglige la puissance de la prière ?» Et j'ose nous poser cette question ce matin. Est-ce que tu crois à la puissance de la prière ? Pardon, je vais répéter la question. Est-ce que tu crois à la puissance de la prière ? Amen. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà pu expérimenter ? Est-ce que c'est juste un mythe, quelque chose où tu as toujours entendu des histoires et « Oh, mais Seigneur, j'aimerais tellement pouvoir vivre ça !» Et pourtant, Dieu nous offre cette puissance à tous, elle est accessible à tous, la prière est accessible à chacun d'entre nous. Et je voudrais ce matin partager avec vous un texte, un tout petit texte, presque insignifiant, qui nous rapporte le baptême de Jésus. Ce baptême, il nous a rapporté dans les trois évangiles synoptiques, dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. Mais je voudrais partager ce matin le texte de Luc qui rapporte ce baptême de Jésus. Parce qu'il y a un petit détail intéressant que je voudrais partager avec vous. Et je lis ce texte avec vous dans Luc 3. Luc au chapitre 3, c'est affiché ici si vous voulez suivre également. Et deux petits versets, les versets 21 et 22. Luc 3, 21 et 22. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Et ce petit détail que Luc rapporte et que ne rapportent pas Matthieu et Marc, c'est que pendant que Jésus se fait baptiser, il prie. Et Luc insiste d'une manière particulière sur la vie de prière de Jésus. Et on voit Jésus prier de manière régulière, se mettre en connexion avec son Père de manière régulière. Pour ne pas dire permanente, mais finalement il a même commencé son ministère par la prière. On le voit ici. Et on sait qu'il a terminé son ministère sur cette terre dans la prière. Quand il était dans le jardin de Gethsémané, en souffrance, en angoisse, il prie le Père. Père, si tu le peux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et jusqu'à la croix, où il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il n'a jamais cessé de s'adresser à son Père. Et trop souvent, nous attendons, j'attends, les rushs de la vie, les difficultés, les épreuves, les maladies, pour que d'un coup, je me dise, oh là, vite, faut que je prie. Peut-être ça vous est déjà arrivé d'avoir une douleur particulière dans votre corps, quelque chose qui vous dise, et là, souvent, ceux qui somatisent se disent, j'ai un cancer, c'est sûr. Seigneur, je vais aller voir le médecin, permets que ce ne soit rien. Puis on va voir le médecin, bon monsieur, vous avez une angine, vous allez prendre un antibiotique, ça sera réglé. Ah Seigneur, désolé de t'avoir dérangé pour ça. Combien est-ce que parfois, on peut avoir ce genre d'attitude un peu de du Dieu pompier, où on va faire appel à lui quand on a besoin, quand ça va pas. Priez en toutes circonstances. Priez chaque jour. Jésus prenait du temps dans la prière souvent avant même, j'ai envie de dire, de prendre des bains de foule, d'aller au contact des gens, d'aller accomplir des miracles, d'aller prêcher la bonne nouvelle du royaume. Et il prenait du temps pour prier à l'écart. Marc nous rapporte au chapitre 1, le lendemain, bien avant l'aube, en pleine nuit, Jésus se leva et sortit. Il alla dans un lieu désert pour y prier. Juste après avoir nourri une foule de plusieurs milliers de personnes en multipliant 5 pains et 2 poissons, il demande à ses disciples de prendre de l'avance sur le lac pendant qu'il renvoie la foule. Et quand il eut pris congé de la foule, il s'en alla sur la montagne pour prier. Il prend du temps en permanence dans la prière. Et pour Jésus, prier n'est pas une option. Prier n'est pas un bouche-trou, quelque chose que je vais faire si j'ai le temps. Et il ne prie pas s'il a du temps. Mais il prend du temps pour prier à chaque instant. Matin, soir, dans la journée, à tout moment, il se met en connexion avec le Père. C'est sa première priorité, d'être dans l'intimité de son Père. Alors, j'ose nous poser cette question ce matin, et ce n'est pas du tout une question accusatoire, absolument pas, c'est plus une question pour m'interpeller, pour nous interpeller. Où est-ce que tu en es dans ta vie de prière aujourd'hui? Et quand je me pose cette question, bien je me sens tout petit. Combien de fois est-ce que, en regardant dans les jours qui ont précédé, parfois les semaines qui ont précédé, je me dis, mais quand est-ce que j'ai prié avec foi au Seigneur? Ah ben oui, il y a bien ces temps de prière classiques, bien précis, que je sais où je vais les mettre, le matin peut-être, parfois, quand je suis dans la voiture. Bien sûr, avant chaque repas, évidemment, sinon ça serait un sacrilège. Et puis, à certains autres moments, mais précis, mais où je prie, et en même temps, est-ce que réellement je pense à ce que je prie? Où je vais avoir des défis devant moi, et est-ce que réellement j'ai pris le temps de demander à mon Père Céleste, agis dans cette situation, je veux dépendre totalement de toi. Où est-ce que tu en es dans ta vie de prière aujourd'hui? Et je voudrais qu'on continue à étudier ce texte ensemble de Luc, parce qu'il se passe quelque chose d'assez incroyable. Durant cette première prière publique de Jésus, il y a 3 événements, 3 choses qui se produisent à ce moment-là que je trouve assez incroyables. La première chose qui se passe, c'est que le ciel s'ouvre. La prière faite au nom de Jésus-Christ ouvre le ciel. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça? Est-ce que vous imaginez maintenant, pas à l'échelle individuelle, mais à l'échelle collective, toute une église qui se mette à prier avec foi pour quelque chose de particulier à la gloire de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu dans le quartier, dans la ville, pour un projet bâtiment? Je ne sais pas comment se sont passées les choses, et je suis juste encouragé de savoir que vous avez un projet d'agrandissement dans votre bâtiment. C'est un bon problème que vous avez. Et je vais vous partager une expérience qu'on a eu l'occasion de vivre à Marseille, dans l'église de Marseille. On a eu, je pense comme vous, toute une réflexion autour d'un projet bâtiment. Ça durait depuis 10 ans, c'est long 10 ans, hein. Et puis en tout cas depuis 5 ans de manière vraiment active. on écrémait toutes les annonces qui sortaient, le moindre truc qui sortait. On a un même problème comme vous, c'est qu'on est dans une grande ville, et dans les grandes villes, ça part vite. Et puis il y a les promoteurs, vous savez, qui ont des grosses finances et des épaules solides, souvent ils vous passent devant, et puis nous on est bien petits à côté. Et puis, après avoir eu peut-être 2, 3, 4 pistes qui se sont assez vite arrêtées, on a eu une piste un petit peu plus sérieuse d'un projet bâtiment qui semblait vraiment, j'ai envie de dire, fait pour nous. Il répondait à tous les critères, cahier des charges qu'on s'était fixé, tout. Et un problème, c'était le prix. Alors la banque nous prêtait jusqu'à un certain stade. On avait quelques réserves sur un compte, mais il manquait quand même une certaine somme, il nous manquait 200 000 euros. On s'est dit, c'est quand même pas rien, 200 000 euros, c'est énorme. Alors avec 200 000 euros, dans une ville comme Lyon ou Marseille, vous achetez un appart, hein, vous n'allez pas, malheureusement, c'est... Mais c'est une somme énorme. Mais on s'est dit, pour nous, c'est une somme énorme. Mais pour Dieu, qu'est-ce que c'est? Si c'est sa volonté, qu'est-ce que c'est? Alors on s'est dit, eh bien on va avancer avec foi, et on va faire un appel au don pour ces 200 000 euros. On était à peu près début juillet 2019. On lance cet appel au don. On envoie tout notre réseau, partout. On a besoin de 200 000 euros. Et bien sûr, on avait une deadline parce que vous comprenez que le propriétaire qui nous vendait les locaux n'allait pas attendre 2 ans qu'on récolte la somme. Donc, on avait dit, écoutez, on s'engage à ce que début octobre, on ait récolté cette somme. Et si c'est pas le cas, on laisse tomber le projet. Il nous a dit d'accord. Il a eu confiance parce que c'était pas rien. Et puis, on lance cet appel au don. On arrive début septembre 2019. Et là, on avait 5000 euros sur les 200 000. C'est bien 5000 euros, c'est quand même une belle somme. Mais à côté de 200 000 euros, c'est vraiment, vraiment pas assez. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on a réfléchi ensemble. On a réuni le conseil d'anciens, le conseil d'église. Et on s'est dit, mais après tout, à quel moment est-ce qu'on a réellement demandé à Dieu, Seigneur, nous voulons avancer par la foi, te faire confiance, et que si c'est ta volonté, eh bien, on va récolter cet argent, cette somme-là. Alors, je ne vous dis pas qu'on n'avait pas prié, mais on avait prié, Seigneur, que ta volonté soit faite. Ah, Seigneur, s'il te plaît, allez, on sait que tu es un grand Dieu, allez, tu vas faire... Et puis, tout le monde est parti en vacances, c'était l'été, et puis finalement, on a été mis face à nos responsabilités. Et on s'est dit, ça doit être un projet d'église. Alors, on a réuni toute l'église, on a communiqué à toute l'église, et on a lancé 2 jours de jeûne et de prière, où on a invité toute l'église à se mettre à genoux devant Dieu et à prier avec foi, de dire, Seigneur, si c'est ta volonté, que tu permettes de nous donner cet argent. On a vécu ces 2 jours de jeûne et de prière. Je crois que la chose la plus forte qu'on a vécue durant ce temps-là, c'est l'union et la communion qu'il y a eu dans l'église à travers ces 2 jours. Il s'est passé quelques jours, et environ une dizaine de jours plus tard, et ce que je vous raconte là, c'est pas une blague, c'est du vécu. Une dizaine de jours plus tard, je me rappelle encore, c'était un lundi matin. Donc on a un WhatsApp avec le conseil d'église, et une première sœur du conseil d'église nous dit, écoutez, il vient d'arriver une somme de 800 euros sur le compte, elle suivait en direct ce qui se passait. Et puis, 10 minutes après, elle dit, on vient de recevoir une somme de 1500 euros. Et puis, une autre sœur de l'église qui suivait aussi les comptes dit, purée, on vient de recevoir un don de 5000 euros. Et puis, une autre qui, quelques minutes plus tard, dit, on vient de recevoir 8000 euros. Et ça pleuvait comme ça, et ça s'est pas arrêté pendant toute la matinée. En une matinée, on a dû recevoir l'équivalent de plus de 50 000 euros sur une matinée. Et là, je vous dis honnêtement, j'en avais les larmes aux yeux, de me dire, mais comment, Seigneur, nous n'avons juste pas cru que tu pouvais donner cela, et quand réellement on s'est mis dans une pleine dépendance à toi, tu as commencé à répondre. Et dans les 2 semaines qui ont suivi, et on approchait de la deadline, eh bien, on a récolté, j'ai envie de dire, quasiment la somme des 200 000 euros. Entre les dons et les promesses de dons qui ont été faites, on a pu aller voir le propriétaire et de dire, c'est bon, on a la somme. Je ne suis pas en train de dire que quand vous voulez quelque chose, il faut absolument vous mettre de suite dans le jeûne et la prière et que ça va arriver. Je veux que les choses soient bien claires. Mais je suis en train de dire qu'il y a une vérité biblique derrière ça, qui est de dépendre pleinement de Dieu. Et de dire, Seigneur, oui, si c'est ta volonté, Nous voulons croire que tu peux faire cela, qu'il n'y a rien qui peut t'empêcher de faire cela. Et peut-être qu'il peut ne pas le faire. Et on a eu aussi d'autres histoires comme ça, où on a prié avec foi, et les portes se sont fermées. Parce qu'on dépend de Dieu. Et si on dépend de Dieu, on est prêt à accepter ce qu'il veut nous dire, et ce qu'il a pour nous, en réserve. La deuxième chose, assez incroyable, qui se passe pendant que Jésus prie, c'est que le Saint-Esprit descend sur lui sous une forme de colombe. Notre plus grand besoin, en tant qu'enfant de Dieu, c'est l'assistance du Saint-Esprit dans nos vies, dans notre faiblesse, dans nos épreuves, pour nous consoler, mais aussi pour grandir dans notre maturité spirituelle. Et je crois que si le Saint-Esprit est descendu sur Jésus sous la forme d'une colombe, c'est peut-être pas un hasard, parce que la colombe, c'est le symbole de la paix. Et quelle paix plus grande que de venir au pied de la croix de notre Père et de lui déposer nos fardeaux. Alors j'ai cette petite image comique d'Auderset que vous connaissez certainement déjà. Et quand je dépose mon fardeau, bien sûr, je dépose mon fardeau. Et je ne repars pas avec. Parce que nous sommes aussi des grands spécialistes du Seigneur, je te fais confiance. Et puis après, je veux gérer la suite tout seul. La troisième chose qui se passe pendant que Jésus prie, c'est qu'une voix se fait entendre du ciel. « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Vous vous rappelez ce qui s'est passé au moment où Jésus, sur la croix, a expiré? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là exactement? On l'a chanté tout à l'heure. Tu déchires le voile. Vous en souvenez? Vous vous rappelez peut-être plus ce que vous avez chanté tout à l'heure? Tu déchires le voile. Au moment où Jésus a expiré, le voile s'est déchiré. Et c'est pas un hasard si au moment où Jésus expire sur la croix, le voile se déchire. Et il faut bien comprendre cela. Parce que le fait que le voile se déchire, Dieu est en train de dire, l'œuvre que mon fils accomplit sur cette croix, et 3 jours après sa résurrection, nous ouvre la voie, l'accès direct au Père. Et c'est la raison, comprenons bien cela, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je peux m'adresser directement au Père sans aucun intermédiaire. J'ai pas besoin de passer par le prêtre, par mon ancien, par quelqu'un de consacré d'une manière particulière pour m'approcher de Dieu. J'ai un accès direct au Père. Je peux m'adresser directement à lui par la prière, parce que Christ a accompli sur la croix ce que je ne pouvais pas faire et qui m'empêchait de m'adresser directement au Père. Et maintenant, j'ai cette opportunité de pouvoir m'adresser à lui à tout moment, en toutes circonstances, parce que lui ne dort pas. Est-ce que c'est pas incroyable? Est-ce que j'oublie pas trop souvent cela, malgré moi, malheureusement, que j'ai cet accès direct et je m'en priverai? La prière, je suis désolé de vous l'apprendre, ça n'est pas un monologue. Et je suis le spécialiste du monologue dans la prière. Et je peux prier des fois pendant comme ça des minutes et des minutes et des minutes. Amen. Et hop, j'enchaîne sur ce que j'ai à faire. Mais j'ai oublié quelque chose d'important. C'est que quand on prie, Dieu nous parle aussi. Pas que quand on prie. Mais quand je prie, je dois également, en même temps que je prie le Père et que je lui demande peut-être des choses pour ma vie, me mettre à son écoute et savoir faire quelque chose qui est compliqué dans notre milieu occidental, faire silence. C'est dur de faire silence. Et là, je parle à des personnes de la grande ville, là. C'est dur de faire silence dans une grande ville. Quand t'es à la campagne encore, tu dis, bon, je sors. Allez, oui, voilà, il y a un peu les moutons devant, quelques animaux peut-être. Et j'arrive. Mais là, ici, tu sors, t'as les voitures, les gars qui klaxonnent, les pompiers. Et je passe la liste. C'est dur de pouvoir se mettre dans le silence. Et pourtant, combien c'est important dans la prière de faire silence pour se mettre à l'écoute de Dieu. Et je vous garantis que quand vous faites silence et que vous dites au Seigneur, parle-moi, il parle. Alors il ne va peut-être pas vous envoyer un fax, et il va parler de manière différente. Ça va être peut-être sur ce moment-là une pensée qui va vous venir sur le cœur. Ça va être peut-être dans les jours qui vont suivre en parlant avec des frères ou des sœurs. Ça va être tout simplement en ouvrant sa parole, parce qu'il nous a laissé sa parole, parce que le Seigneur nous dit tout ce dont nous avons besoin de savoir dans sa parole, mais en étant dans une attitude d'écoute. Et c'est peut-être la différence. Un de mes textes préférés dans la parole, vous savez, c'est quand les anciens de l'église d'Antioche se réunissent pour prier. On ne sait pas vraiment pourquoi ils prient à ce moment-là. Et pourtant, il se passe quelque chose d'incroyable. Je vous lis juste le texte de... Ça se trouve dans Acte 13. Un jour, donc, que les anciens de l'église d'Antioche adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient. Le Saint-Esprit leur dit, « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Il y a 10 ans, pour la première fois, avec les responsables de l'église à Marseille, on s'est dit, et pourquoi est-ce qu'on se priverait de vivre un temps de jeûne et de prière ensemble? Alors on s'est réunis, on n'était pas nombreux, on était quelques responsables, on était peut-être 6, et on s'est mis dans le jeûne et la prière pendant un demi-week-end ensemble, et puis on a chanté, on a prié, on a fait silence, on a commencé à discuter ensemble, et on a dit, Seigneur, montre-nous qu'est-ce que tu veux pour ton église. Et au cours de ce week-end-là, on a eu la conviction de pouvoir transmettre à l'église une église qui grandit et qui se met au service de la communauté, avec une vision d'une église à un certain nombre, peut-être dans 5-10 ans. Et puis après, on a communiqué ça à l'église. Et l'église, quand on a osé à dire un nom, même, hein, ils ont dit, mais vous êtes fous, qu'est-ce que vous dites, Et puis l'église a fait confiance. Et puis on a continué à avancer comme ça. Et puis après on s'est dit, mais si nous, on peut vivre des temps de jeûne et de prière comme ça, où on est, c'est comme un temps, vous savez, où on montrait sur la montagne un petit peu, un temps de retrait, un temps de retraite, peut-être je pourrais dire. On s'est dit, pourquoi est-ce qu'on pourrait maintenant pas vivre ça en église aussi? Et c'est en 2015, donc bien avant l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, que on a commencé à vivre des temps de jeûne et de prière en église où on priait pour la ville de Marseille, pour la croissance de l'église, pour que le Seigneur permette à chacun de grandir en maturité. Et je peux juste vous dire qu'aujourd'hui, avec du recul, le Seigneur a agi d'une manière incroyable, comme je crois qu'il agit d'une manière incroyable dans cette église et qu'il agit d'une manière incroyable dans de nombreuses églises qui veulent se tenir dans sa dépendance. Je dirais peut-être juste une petite parenthèse sur le jeûne. Parce que souvent, le jeûne, c'est un peu... On n'est pas des charismatiques, hein, mais il faut quand même... le jeûne, mais... puis pas manger. C'est compliqué, là, ce que... Et pourtant, le jeûne, la Bible en parle. Du début à la fin, la Bible parle du jeûne. Et je crois que s'il y avait une chose à dire sur le jeûne, c'est déjà le jeûne seul n'a pas de sens. Le jeûne est toujours associé à la prière. Et on parle bien toujours de jeûne et de prière. Ensuite, je pense qu'il est important aussi de comprendre que le jeûne n'est finalement qu'un symbole, mais un symbole vécu. J'avais envie de dire avec le fond de nos tripes, mais c'est plus avec un estomac vide. Un symbole qui nous rappelle que de la même manière que notre corps est dépendant de la nourriture, et on le sent bien quand on jeûne, on comprend bien qu'on est pleinement dépendant de la nourriture, et bien de la même manière, notre âme, notre esprit doit être pleinement dépendant de Dieu. Et nous pouvons combler cette dépendance par notre relation avec Dieu, par notre intimité avec Dieu, en nous mettant dans une position où nous allons être dépendants de Dieu et pleinement dépendant de Dieu. Ne cherchez pas forcément tout de suite à jeûner, soyez prudent si vous jeûnez, si vous avez des maladies particulières, diabète ou autre, si vous êtes enceinte, ne jeûnez pas non plus. Mais c'est des choses intéressantes sur lesquelles réfléchir, peut-être parfois d'associer le jeûne à la prière et de goûter, de vivre, d'expérimenter pleinement cette dépendance à Dieu, cette pleine dépendance à Dieu. Je terminerai en donnant peut-être juste quelques applications de la puissance de la prière. D'abord, peut-être à l'échelle individuelle, pour chacun. Et peut-être, alors je ne connais pas l'église, donc je ne sais pas si peut-être aujourd'hui, il y a des gens qui viennent pour la première fois dans cette église et qui ne connaissent pas Christ, ou qui tout simplement se posent des questions. Qui est Jésus? Pourquoi est-ce qu'on parle autant de Jésus? Pourquoi est-ce qu'on l'a chanté ce matin, prié ce matin? Eh bien, j'ai envie de t'engager à pouvoir t'adresser à Dieu, à pouvoir lui faire cette prière. Seigneur, ouvre mon cœur. Seigneur, si tu existes, alors j'ai envie de te rencontrer. J'ai envie de connaître plus qui tu es. Et si tu te poses cette question, eh bien, j'ai envie de t'encourager à peut-être aller voir les responsables dans ton église pour pouvoir en savoir plus. Parce que nous avons un grand Dieu. Pour ceux qui ont fait cette démarche d'accepter Jésus dans leur vie comme leur sauveur et leur Seigneur, eh bien, j'ai vraiment envie de t'encourager à pas te priver de la prière et de faire une prière avec foi en t'attendant à ce que Dieu agisse. Et pourquoi est-ce que la prière est si compliquée? Pourquoi est-ce que ça semble souvent si difficile de prier? Il y a de nombreuses raisons à ça, mais je crois que c'est pas un hasard. Quand un enfant de Dieu se met à genoux dans la prière, je crois vraiment que l'ennemi, le diable, ne peut pas aimer ça. C'est pas possible parce que, à ce moment-là, cet enfant de Dieu se met dans l'humilité devant Dieu et a la possibilité de pouvoir demander pardon pour ses fautes et pour ses péchés. Et le pardon est quelque chose qui renouvelle, qui réconcilie, qui rétablit, qui restaure. Peut-être la deuxième raison, c'est que quand on prie avec foi pour l'avancement du royaume de Dieu, ça n'est pas quelque chose qui peut plaire non plus à l'ennemi. Et je crois que l'ennemi va bien plus préférer quelqu'un qui prie parce qu'il doit changer de métier ou parce qu'il doit acheter une nouvelle maison, une nouvelle voiture, et c'est juste de prier pour ces choses-là, qu'un disciple qui va prier pour être utile à l'avancement du royaume de Dieu sur cette terre et prier avec foi pour que toutes les personnes qui ne connaissent pas Christ encore sur cette terre puissent le rencontrer. Je crois qu'il est utile, parfois, à titre individuel, devant des grandes décisions pour notre vie à prendre, devant peut-être des changements de situation de vie, de prendre un temps particulier dans la prière, à genoux devant Dieu, dans une attitude de pleine dépendance à lui, et lui dire « Seigneur, il y a ces possibilités devant moi qui s'offrent à moi. Qu'est-ce que je fais? Vers quoi est-ce que tu veux que j'aille? Mon désir, c'est de te rendre gloire. Montre-moi, parle-moi. Ouvre mes yeux. » Et de prendre ce temps particulier dans la prière. Peut-être à l'échelle du couple, combien est-ce qu'il n'est pas toujours évident? Alors déjà que seul, c'est pas évident. Alors à deux, peut-être encore plus difficile de prendre des temps de prière. Et pourtant, combien c'est riche en tant que couple de pouvoir se mettre là aussi à genoux devant Dieu, en couple, et de prier pour son couple, pour ses enfants, de prier pour l'église, de prier pour ses voisins, pour les situations que nous allons pouvoir rencontrer. Et là aussi, la prière est un challenge. Mais combien est-ce que c'est riche et précieux de pouvoir prendre du temps en couple pour prier? Et puis, à l'échelle communautaire, à l'échelle de l'Église, combien est-ce que c'est précieux et j'ai envie de dire puissant quand toute une Église se met à genoux dans la prière pour prier avec foi que le Seigneur agisse, agisse dans l'Église, agisse dans le quartier, agisse dans la ville et au-delà pour que l'Église rayonne. Alors j'ose peut-être ce matin, pour conclure, vous lancer ce challenge. vous lancer ce challenge de réfléchir communautairement comment est-ce que nous pourrions prendre d'une manière intentionnelle, réfléchie, prendre du temps dans la prière, ensemble, pour des projets particuliers. Et sûrement que vous l'avez déjà fait, et j'ai envie de vous encourager à continuer à le faire. Une église qui se tient à genoux devant Dieu, dans la pleine dépendance à Dieu, pour dire « Seigneur, que veux-tu que nous fassions ? Seigneur, nous sommes à ta disposition en tant qu'église, utilise-nous pour l'avancement de ton royaume sur cette terre, dans cette ville où tu nous as placés. Seigneur, nous voulons dépendre pleinement de toi et de toi seul. » Amen. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, tu es celui qui est au-dessus de tout. Tu es celui qui a tout créé. Tu es celui qui a payé du prix de ta vie le prix de notre salut, nous qui étions condamnés à cause de notre péché. Tu as pris notre place. Tu as tout accompli pour nous, parce qu'il n'y a rien que nous n'aurions pu faire par nos propres forces. Pour cela, Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Et nous voulons te remercier parce qu'aujourd'hui, tu nous donnes de pouvoir avoir un accès direct à toi sans intermédiaire. Tu nous donnes de pouvoir nous adresser à toi à chaque instant, à chaque seconde. Tu veilles, tu nous écoutes. Il n'y a aucun moment où tu dors. Mais toujours, Seigneur, tu es là et tu te mets à notre écoute. Seigneur, donne-nous d'avoir cette attitude dans l'humilité, de dépendre pleinement de toi en toutes circonstances. Que lorsque nous sommes face à une situation, un dilemme, une épreuve, nous ne foncions pas tête baissée à vouloir faire les choses par nos propres forces. Mais Seigneur, que tu nous donnes de commencer dans la prière en te disant, nous voulons, je veux dépendre de toi et de toi seul. Agis dans cette situation. Seigneur, je te prie d'une manière particulière pour cette église. Que tu bénisses cette église, que tu donnes à cette église de continuer à grandir en nombre, Seigneur, et j'ose prier, même si cette salle est pleine, mais quelle bénédiction, mais aussi en maturité spirituelle, que tu fasses de cette église des disciples qui se multiplient. Que tu donnes, Seigneur, à cette église de dépendre toujours plus de toi en toutes choses. Amen.
C'est dommage.
Je vais le faire rapidement, je ne voudrais pas prendre trop de temps. Merci. J'ai pas dit mon nom, c'est vrai. Jérémy Kouyoumdian. Et donc, comme vous l'aurez compris, je suis de Marseille, où on habite dans un petit village à côté avec mon épouse et nos trois enfants. J'ai un ministère qu'on appelle un ministère bivocationnel, c'est-à-dire que je suis à mi-temps dans le travail séculier en tant que médecin et à mi-temps dans le ministère pour l'Église et puis pour l'Union d'Église également. Voilà. Merci. Pour ce bon résumé.